Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On se marie en France de moins en moins, on se paxe moins aussi, mais on divorce plus. Entre 1964 et aujourd'hui, le nombre de divorces a été multiplié par 4 en France, tandis que la durée moyenne du pax est de 2 ans et demi. Les familles monoparentales sont plus nombreuses, ainsi que les personnes qui vivent seules, un homme sur 5 à partir de 55 ans et une femme sur 4. Quand on vit dans une grande ville, c'est un mariage sur 2 qui conduit au divorce, mais on notera que ce n'est pas plus à Paris qu'ailleurs. La durée de l'attirance sexuelle, selon les biologistes, elle ne varie guère. Elle est de 30 mois, à peine 3 ans, c'est officiel. Si on ajoute à cela le séparatisme issu de la révolution MeToo, une certaine liberté sexuelle confortée par les pratiques issues des applications de rencontres, on peut raisonnablement se demander si le couple est encore un modèle qui convient à notre époque, qui est souhaitable, épanouissant pour les femmes en particulier. On le sait depuis l'avènement des sociétés bourgeoises, on l'a lu dans la Comédie humaine, ce n'est pas un secret. La visée principale du couple, ce n'est pas l'amour, qui est une idée récente, mais la transmission du patrimoine et de la filiation, c'est une association économique, une construction civile et juridique qui maintient l'ordre social. Est-elle toujours adaptée à notre monde, souhaitable, y compris sur le plan économique, viable dans des sociétés aussi atomisées, individualisées, ubérisées? Ou assiste-t-on au contraire à la fin du couple, comme l'annonce Marcela Yacoub dans un livre publié en 2016? L'État, après avoir fabriqué entre guillemets la conjugalité nécessaire à la reproduction de la société bourgeoise, écrit-elle, travaille aujourd'hui à la séparation des couples, nécessaire à l'atomisation individualiste libérale. Marcela Yacoub suggère donc de sortir du couple et d'inventer de nouvelles formes de relations et d'associations entre les individus. En attendant de les avoir trouvés et testés, c'est bien de cette question qu'il s'agit tout de suite. Devant et derrière la glace sans teint où se déroulent ces thérapies de couple avec Delphine Saltel et ses couples en crise, le couple est-il encore viable? Et la famille est-elle son fossoyeur? Réflexion tout de suite dans Les Pieds sur Terre, la clinique de l'amour, épisode 3. C'est parti.
Ce matin, pour être à l'heure à l'hôpital où je vais assister aux thérapies de couple, il fallait que j'attrape le premier TGV et j'ai dû partir de chez moi à l'aube. Mais franchement, au moment de fermer la porte le plus doucement possible pour ne pas réveiller mon conjoint et nos deux enfants, j'étais très contente de pouvoir échapper à la parenthèse maudite. Ce créneau infernal, entre 7h et 8h15, qui consiste à essayer d'arriver à temps à l'école avec deux enfants peu coopératifs. Et qui, chez nous, n'est jamais très loin de virer au clash.
Allez, Pauline, arrête !
Je pense à ça dans mon Ouigo, en regardant le paysage défiler vers le sud. Les engueulades, le bordel dans la maison, l'ambiance hautement inflammée, tous ces moments passés ensemble et qui ne ressemblent pas vraiment au couple idyllique, à la famille harmonieuse que j'avais imaginé pouvoir construire.
Je vais être avec toi.
Et toi, tu t'es toujours pas lavé les dents?
Pour toujours.
Non, c'est pas possible. En 10 secondes,
c'est merveilleux, tu ne crois pas?
Tu peux dire au revoir à tes parents?
Au fond, il faudrait peut-être que je me l'avoue, la vie quotidienne en couple et en famille agit sur moi la plupart du temps comme un rouleau compresseur, qui me laisse l'impression d'être débordée, écartelée sur plusieurs fronts, moyennement aimante et moyennement aimable. Je me demande si c'est moi qui n'y arrive pas ou le modèle que je vise qui est inaccessible. J'en suis à peu près là de mes réflexions quand j'arrive à l'hôpital, juste à temps pour la consultation des DASIC.
Ok, donc aujourd'hui tu avais sport, c'est ça?
Hein? J'adore le sport.
Je les trouve installés dans la salle d'attente. Comme la dernière fois, ils sont venus avec leurs deux filles. Eux, le modèle de la famille unie, ils n'ont pas réussi à le tenir très longtemps. Ils ont divorcé quand Amy, la cadette, n'avait même pas 2 ans.
Voilà, à la gare. On va aller à la gare de Vitrolles avec Marie.
C'est nouveau, gare de
Vitrolles. Tu regardes une fille dans les yeux, ça veut dire, pour elle, ça veut dire que...
Oui, ça dépend où tu vas.
Ça doit pas être évident tous les jours, la garde alternée. Se mettre d'accord pour gérer les enfants. Le handicap mental de Lise, la sœur aînée. Sa scolarité à l'institut médico-éducatif. Et les frasques d'Ami qui leur fait une crise d'adolescence bien gratinée. Mais là, ce matin, dans la salle d'attente, ils n'ont pas l'air si dysfonctionnels que ça, tous les quatre. Plutôt d'avoir plein de choses à se raconter et d'être assez contents de se retrouver. Même pour faire le point sur tout ce qui ne va pas.
Alors, racontez-nous comment ça se passe dans vos relations depuis notre dernière rencontre.
Ah, et ben, ça va.
Oui. Pour toi, ça va.
Lise, pour toi, ça va? Oui.
Oui.
Ah ben, raconte, tiens, comment ça se passe, nous, à la maison. Vas-y.
Ah bon?
Oui, vas-y. Bon, non, ça va pas mieux. Ça va pas mieux, ni au collège, ni à la maison, ni... Voilà. Et là, je ceinture, hein.
Oui, c'était le cas de...
Oui, ça n'a pas évolué. Aussi. Ça n'a pas du tout évolué.
Oui, ok. Racontez-nous.
Vas-y, raconte.
Mais toi, raconte.
Non, mais...
C'est moi, tout va bien pour moi.
Ouais, tout va bien. Donc, elle continue de sortir sans notre autorisation. À rentrer... Attends. À rentrer, on lui dit une heure. Enfin, on s'attend à ce qu'elle rentre à 17h avant qu'il fasse nuit. Puis à 19h, des fois, elle n'est pas là. Bon.
Mais ça, on l'avait déjà raconté, ça.
Non, mais ça a continué après. Depuis que je t'ai récupérée à la maison, ça a continué, Amélie. Toute la semaine dernière, tous les soirs, tu n'es pas rentrée à la maison, que même ton père est allé te chercher à Carrefour, que tu l'as contourné, que tu l'as évité.
Ouais, parce qu'il m'a frappé là.
Ouais.
Quand j'ai raté le rendez-vous.
Jusqu'à...
Et ça, ils sont au courant.
Non, ils sont pas au courant que ton père t'a giflé. Donc ça, au collège, elle continue à être insolente avec les... Alors, insolente, peut-être pas avec les profs, mais en tout cas avec tout le personnel de surveillance. Et avec les profs, ben, elle continue quand même de se prendre des observations. Hein.
Par qui?
Non. Physique. Et là, aujourd'hui encore, j'ai la CPE qui m'a appelée pour me dire qu'elle était encore enfermée dans les toilettes avec sa copine, toujours la même, à faire je ne sais pas quoi, soit à se maquiller, soit à se prêter des vêtements, soit à faire du portable, je ne sais pas. Elle ne veut pas le dire. Voilà, et que quand elle se fait attraper par les surveillants ou la CPE, elle leur rigole au nez. Bon, voilà. Moi, c'est ce que Madame Adjimi m'a dit.
Ouais, ben toi, après, crois qui tu veux, je crois
l'adulte. Ah ben là, je crois les adultes.
Et ben ouais. Voilà.
Là, je crois l'adulte.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu en...
Oui, et alors, j'ai sorti mercredi, je suis rentrée une heure en retard par rapport à des histoires de bus.
Elle s'invente sa réalité, hein. Bon, donc, vas-y.
Et ensuite, arrête.
Vas-y.
Alors, je ne veux pas trop contredire, mais un petit peu, parce que je trouve que ça va un peu mieux pour moi. Et il y a eu quand même un ou deux éléments marquants. Bon, je crois que la première fois de ma vie, je t'ai envoyé une baffe.
Tu lui as fait peur,
et
c'est très bien.
Bon, t'arrêtes de nous couper, toi, ouais. Laisse-le parler.
Et évidemment, elle n'a pas respecté l'horaire, elle est arrivée.
Tu me dis de rentrer à 17h, mon bus était à 17h.
Non, ton bus il était avant, tu pouvais très bien prendre ton bus avant.
Juste toutes les demi-heures, oui.
Et en fait, c'est son plaisir. C'est son plaisir compte avant les règles. Et donc, nous, ça nous rend fous en fait. Ça, c'est pour les sorties, pour le comportement à la maison, en ce qui me concerne, ça se passe quand même plutôt bien.
Ouais.
Ça se passe plutôt bien quand même.
Ouais.
Quoi? Tu es vraiment une gamine.
Moi, je suis une gamine.
Ouais. Pourquoi?
Parce que elle se fout clairement de sa gueule.
Non, je me fous pas de sa gueule.
Ouais.
Non, je fais oui, d'accord. Parce que moi, la semaine, elle ne travaille pas. Il faut que je sois sans arrêt derrière elle.
Si je travaille pas, comment tu expliques que j'ai 18 de moyenne?
Non, mais tu fais le minimum. Parce que tu fais le minimum.
Ah, pardon, tu as 18 de moyenne?
Mais...
Pas tout à fait, mais enfin, bref.
Et ça l'excuse en tout.
Bah ouais.
Peut-être pas, mais...
La dernière, j'avais 13 de moyenne.
Pardon ?
L'année dernière, j'avais 13 de moyenne. Dernier trimestre, ou 11, pardon.
Quelle classe tu es ?
Quatrième.
Ouais. C'est pas une classe facile, quatrième.
Non, c'est la plus dure classe, oui. Ouais.
18, bah bravo.
Voilà, ce que tout le monde lui dit, mais ça l'excuse. Voilà. Vu qu'elle a les bonnes notes, ben, y a tout le reste qui passe à côté.
À ce moment-là, on a l'impression que le psychiatre ne sait plus trop comment arrêter la mère dans son réquisitoire contre sa fille. Est-ce une manière de désamorcer le face-à-face, d'épargner Ami ? En tout cas, il décide de remettre l'accent sur Lise, la sœur handicapée.
Et où tu en es, Amir, de l'inquiétude que tu as exprimée ici concernant Lise, justement, et sa manière dont ça se passe à l'IME ?
Bah, ça va. Bah, elle dit que ça va, donc bon, ça va.
Et ça te rassure ?
Non, mais...
Mais ?
Mais tant pis pour elle.
Qu'est-ce que tu veux dire, tant pis pour elle ?
Bah, elle parle pas, elle a pas de collègue, tant pis pour elle.
Donc, est-ce que tu es en train de dire, bah, c'est son problème, finalement, j'y peux rien, c'est ça que t'en as ?
Bah, oui, j'y peux rien. J'aurais dû même venir une journée avec elle, assez court, pour pouvoir l'aider à s'intégrer.
Ah, t'étais prête à passer une journée à l'IME ?
Bah, c'est ce qu'on aurait dû faire.
C'est ce qu'on...
Mais ils ont pas voulu, en fait.
Ah oui. Pour l'aider à se faire des amis. C'est ça ?
Oui. À chaque fois, moi, je viens, parce qu'il y a des fêtes, des familles, tout ça. C'est tous mes collègues. Et toi, tu restes avec maman.
Non, des fois, elle te suit un peu, vous allez ensemble.
Oui.
Et oui. Avec ta sœur et les copains.
Et ça a l'air de soit te faire de la peine ou te mettre en colère. Enfin, tu le dis avec émotion, on dirait. Non ?
Non. Là, elle ne parle pas, elle dit rien. Elle comprend pas un exercice, elle le dit pas. Elle veut pas, elle dit pas. Elle veut manger, elle le dit pas. Elle répond pas, t'as mangé, t'as pas mangé, elle répond pas.
J'entends Andy qui a l'air de faire beaucoup de soucis pour sa sœur. Donc ça montre qu'elle l'aime beaucoup, sa sœur.
Oui.
Elle a beaucoup d'amour pour elle.
Ah bon ?
Bah.
Ah, oui.
Mais que en même temps, c'est comme si elle avait beaucoup de colère aussi envers Lise. Et que quand on a une sœur qui porte un handicap, tu m'arrêtes quand ça t'embête, si ça t'embête qu'on parle de ça. Ou...
Non,
ça doit être difficile d'envoyer paître sa sœur, en fait. Dans une fratrie, là, on a envie de s'envoyer des trucs à la figure. On s'engueule, on se chicane, on se cherche, on se provoque. Et peut-être, pour Ami, c'est pas évident de chercher sa sœur, de se disputer, parce que Lise répond pas de la même manière.
Bah oui.
Voilà.
Moi, j'aimerais bien me bagarrer, tout ça, gentiment, mais bon, elle veut pas me faire mal, elle veut pas qu'on s'embrouille, alors que même pour rigoler, on peut se bagarrer, en plus, elle se bagarre bien.
Ah non.
En plus, moi, j'aime bien quand on s'énerve, nanana. Ah, elle veut pas.
Je dirais même que là, 13 et 16 ans, elles se sont jamais disputées, elles se sont jamais parlé mal.
Ah, c'est ça le problème.
Eh ouais. Alors, Ami a toujours été très protectrice et très, très altruiste avec sa sœur.
Ah oui. Et pourtant, je dirais, on en peut avoir envie...
relation fraternelle.
Des fois, sa sœur, on a envie de donner une claque, des fois, on a envie de l'insulter. Et peut-être que c'est compliqué de le faire. Vous vous êtes jamais vraiment disputé. Et bien, que des fois, la rivalité, la compétition entre frères et sœurs, il faut que ça sorte à un moment ou à un autre. Et
peut-être
Pardon ?
Ah bon ?
Ben oui. Ah, tu sais, tous les frères et sœurs du monde, ils ont toujours envie d'être un peu meilleurs que l'autre. Ils s'aiment, mais des fois, ils s'agacent, ils se mettent en colère. Bon, et vous, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de colère. Donc peut-être que la colère, elle sort à un autre niveau chez toi. Plus contre tes parents, contre le collège, ou contre les règles, ou contre je ne sais pas. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, Lise ?
Je pense que tout ce qui touche le handicap a du mal, Lise, avec. Voilà. Et donc, demander ce qu'elle en pense de ça, c'est dur pour Lise de réagir à ça. Parce qu'elle sait qu'on parle de son handicap à elle. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut travailler.
Bon. On va rester là pour aujourd'hui, si vous voulez bien, et vérifier... Qu'est-ce qu'on avait prévu ? Oui, on avait prévu de se voir le 6 novembre, à la même heure, 17h.
Après avoir pris rendez-vous, ils se dirigent tous les quatre vers la sortie. À ce moment-là, la mère s'approche d'Ami pour la recoiffer. Elle essaye de dégager les grandes mèches lissées au brushing qui cachent le joli visage de sa fille.
Ouais.
Ça me met quasiment les larmes aux yeux, ce geste affectueux de la mère. Je me dis que grâce à ce qu'il vient de se dire à l'instant dans la séance, elle va pouvoir changer son regard sur sa fille. Et que les cartes vont être un peu redistribuées dans la famille. Mais l'ado se dégage brusquement et elle envoie sa mère bouler devant tout le monde. Le docteur le rappelle souvent. La thérapie, ça marche pas comme une baguette magique. Ça prend du temps. D'ailleurs, pour les Martins, qui s'installent juste après dans la salle de consultation, c'est pareil. Ça a du mal à bouger. Pourtant, ils en sont à leur troisième rendez-vous.
Ben, moi, c'est toujours pareil, c'est les devoirs. C'est-à-dire que les week-ends sont consacrés aux devoirs. Donc, pas de vie de couple.
Le monsieur est en boucle. Il reproche à sa femme d'être plus mère qu'épouse.
Depuis des années, entre les enfants, moi je suis arrivé à ne plus rien avoir comme esprit. Ben, je me cantonnais à ma télé, à mon bricolage dans le jardin.
Moi, je vous fais quoi? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous?
Je ressens le souhait de... là aussi la frustration, l'abandon de la vie de couple. L'abandon de la vie de couple.
Pourtant, ça fait plusieurs semaines qu'il est parti s'installer chez son fils aîné, qu'il a eu d'un premier mariage. Et il n'a de vie de famille que par intermittence, sous forme de petits moments privilégiés, plusieurs fois dans la semaine, avec sa femme et leurs deux enfants.
J'essaye de lâcher un peu prise et d'essayer de moins être présent quand il y a ma fille au milieu qui fait les devoirs et qui s'emporte auprès de sa mère, parce que ça agit sur mon psychisme personnel, je dirais, quand j'entends ma fille crier, ma femme crier. Bon, j'attache moins d'importance, effectivement, à la continuité scolaire.
Et qu'est-ce que, d'après vous, votre femme pourrait faire, ou qu'est-ce que serait votre attente, vous, vis-à-vis d'elle, pour qu'il y en ait moins d'écrits?
Je lui ai déjà dit plusieurs fois de lâcher prise un peu au niveau de ma fille, parce que ma fille est difficile aussi, dans son comportement, elle est difficile. De la laisser faire jusqu'au bout et non pas de la prendre en charge totalement.
Vous en pensez quoi? Voilà.
Alors, elle a besoin de moi pour les devoirs. Autant mon fils, ça fait 2 ans que je ne suis plus derrière, mais un est plus autonome, l'autre, elle est moins autonome. Donc j'ai souvent fait des devoirs quand il n'y était pas. Mais comme elle est très lente, le problème c'est qu'à un moment donné, on est encore dans les devoirs quand il arrive. Donc moi j'ai essayé de faire des formations parce que je sais bien que ça l'énerve. Mais elle, elle est demandeuse, même si au départ elle me dit « Ah ça va, laisse-moi tranquille, je vais le faire tout seul », au bout d'un moment elle vient. Et je pense que pour sa scolarité, pour son avenir, ben, il faut que je sois encore là dans l'aide. Et la seule façon de faire, c'est de continuer à faire quand il n'est pas là. Hein.
Alors, moi, il y a une phrase qui me traverse l'esprit, mais je n'arrive pas à savoir si c'était entre les lignes, ce qu'a voulu dire votre mari, ou si c'est moi qui projette complètement. Mm-hmm. Désolé, je vais faire le psy. Hein.
Oui, c'est pas grave.
C'est votre rôle.
La phrase qui me traversait l'esprit, c'est je me demandais qui a besoin de qui entre votre fille et vous.
Alors moi je dirais que c'est ma fille maintenant. Peut-être que je ne suis pas consciente que c'est moi qui en ai besoin. Alors, c'est sûr que moi j'ai eu mes enfants tard. Moi j'adore mes enfants, j'adore mon mari, mais j'adore mes enfants. Donc c'est sûr que j'ai peut-être besoin d'elle aussi. Mais bon, moi je lâche, si elle doit partir voir des copines, si elle part en vacances, je ne suis pas quelqu'un qui va la garder. Par contre pour la scolarité, je suis très exigeante et il me le dit. Peut-être que j'ai besoin d'elle aussi, j'en sais rien.
Bon, je lance ça comme ça, c'est pas une interprétation, oui. C'est juste un truc qui me traverse l'esprit. C'est que parfois, dans des situations comme ça, à un moment, un parent pense faire avec bienveillance ce qu'il doit faire. Je vous faites bien, on n'est pas du tout ça en question. Mais au bout d'un moment, on s'attache vraiment à ce rôle-là et on finit même inconsciemment d'en avoir besoin. On se dit, c'est mon enfant qui a besoin de moi. Et puis finalement, c'est peut-être nous qui avons besoin de notre enfant ou de cette situation. Voilà. Enfin, de toute façon, la question, c'est pas de tout changer un fonctionnement qui s'est installé depuis plusieurs années. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est j'ai lâché quand même, j'ai changé. Et mon mari ne voit pas. Vous le voyez, ça,
non, parce que depuis, comme je vous ai dit la dernière fois, docteur, le problème, c'est pas en soi, c'est de nous laisser du temps au couple, à nous.
Oui, voilà. Il a raison. Parce qu'elle a souvent des interros le lundi.
Le week-end, comme je vous ai dit la dernière fois, le week-end, elle se retrouvait même en famille, c'est impossible parce qu'elle a les devoirs, parce qu'elle a les tâches quotidiennes, parce que tout ça, ça pèse sur notre couple. Et le quotidien qui m'a pesé a déclenché chez moi des crises de bon, on va dire, c'est pas des crises de folie, mais des crises de colère importantes. Parce que les petits détails.
Mais depuis que vous en avez parlé à votre épouse, et notamment depuis que vous avez pris la décision de consulter et que vous êtes venu ici, est-ce que vous avez le sentiment que votre épouse a entendu votre besoin, quelque chose qui a...
Alors, la séparation joue beaucoup, parce qu'effectivement, elle me l'a encore dit tout à l'heure, oui, on se voit dans des bonnes conditions, je viens régulièrement à la maison pour voir les enfants, on arrive à faire l'amour dans de bonnes conditions, voilà, on se retrouve bien, mais comme elle m'a dit tout à l'heure, elle a peur elle aussi que le quotidien la rattrape et nous rattrape à tous les deux et que je puisse plus, moi non plus, à nouveau gérer et être dans la situation à ce moment-là de retomber pareil dans les mêmes erreurs et les mêmes colères.
Mais du coup, est-ce que la solution, elle n'est pas dans ce mode de vie actuel que vous avez mis en place ? Vous avez fait un choix qui laisse la place que pour le bon, comme vous voyez ?
Moi, je ne veux pas.
Non,
je pense que c'est la solution. Mais bon, moi, je vois pas une vie saine comme ça. Je lui en ai parlé, c'est sûr que c'est parfait, là. Il vient régulièrement, hein, bien 2-3 fois par semaine. Mais moi, c'est pas ça, la vie de famille. Hein. Moi, la famille, c'est tout le monde ensemble. Enfin, au moins nous quatre.
Elle a l'air catégorique. Pas question pour elle, visiblement, de pérenniser cette vie à deux séparés. Alors qu'elle reconnaît elle-même que la formule leur a fait beaucoup de bien, notamment sur le plan sexuel.
Mais est-ce que vous avez un moment imaginé acheter un logement, un nouveau logement ?
J'imagine qu'il y a des raisons logistiques, des questions de tâches ménagères, d'argent, de logement, qui font qu'elle a du mal à imaginer d'autres modalités à leur vie commune. Mais est-ce que derrière ces réticences, il n'y aurait pas aussi un peu de conformisme ?
Et par rapport à la demande qu'a votre mari de pouvoir faire plus de place à la vie de couple au sein de la vie familiale, où vous en êtes toujours ?
Là oui, ça se passe bien, mais j'ai peur que c'est quand le quotidien vient, le boulot, le travail, le ménage, il me reproche à nouveau de m'éloigner.
J'ai beau savoir que le mariage d'amour n'est qu'une construction récente des sociétés modernes occidentales, je n'ai jamais trop remis en question son principe.
On est quand même resté trois ans.
Cette idée que quand on s'aime, on vit ensemble et on fait des enfants. Alors qu'il n'y a sans doute pas pire comme tu l'amour.
Le malaise était là, on s'était séparés quand même.
On s'est séparés d'amour. On s'est séparés d'amour.
Un peu plus d'amour.
Non.
On le sait bien, mais on se retrouve quand même comme ça, à essayer de tout mener de front. Les sentiments, le sexe, les enfants, la maison. Tout le monde galère, mais il n'y a pas foule pour réinventer le schéma. Le modèle dominant du couple hétérosexuel, monogame avec enfants.
Et je fais beaucoup d'efforts d'acceptation, beaucoup d'efforts des fois de résignation au fond de moi, parce que je me dis, bon, il faut que je m'adapte aux situations.
Alors c'est... À la place, on va en thérapie, chercher des clés dans son passé, travailler sur soi et essayer de rentrer dans les cases.
Alors, je m'appelle Catherine.
Oui, bonjour. Ça compte pas le rendez-vous de demain. Vous avez rendez-vous à 13h. On devra aller.
Bon.
Oui, il y a des nouvelles demandes, j'ai vu.
Et tu as eu quelqu'un en direct ?
Non, justement, j'ai pas eu de temps, mais c'est du bac.
Ouais, j'avais déjà eu, mais j'ai laissé un message déjà. Pas de...
T'as laissé un message quand hier ?
Oui.
Ok.
Ouais.
Qui est adressé par Martine Ponce.
Tu vas regarder ça après. Ouais. J'ai laissé un message quand... Non, vendredi, je crois.
Ok. Bon, je sais pas de quand il date, le message. Et ouais. Effectivement, après, c'est inaudible, bon. Les Vigons, ils ont rendez-vous avec nous quand ? Ah, voilà, le 12.
When the traces of dawn. to fade in the light. You're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As a lot so below on the heavy seas of
C'était La Clinique de l'Amour, épisode 3, La Famille tue l'amour, avec un point d'interrogation, un reportage et une série de Delphine Saltel que vous pouvez retrouver et écouter dans sa totalité en podcast, en vous abonnant au podcast La Clinique de l'Amour ou sur franceculture.fr. Une série réalisée par Cécile Lafont, attachée de production Roxane Poulain, Aurélie Marseille et Sarah Djeriwi. Merci aux patients, à Jean-François Empelas, à Ludmila Shostakov et à leur service, ainsi qu'à Céline Autain.
Heavy sea.